Géopolitique.
Christophe Boisbouvier.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée au Rwanda. Quand on parle de ce pays, c'est souvent au passé. On pense bien entendu au génocide Tutsi de 1994. Mais il y a aussi un présent et un avenir, et il y a notamment une présidentielle programmée en 2017, une élection où Paul Kagame, le président sortant selon la constitution actuelle, n'a pas le droit de se représenter. Mais comme on va le voir, les règles du jeu vont très certainement changer, c'est ce que nous allons voir avec nos invités. André Guichaoua, universitaire à Paris 1, auteur de « Rwanda, de la guerre au génocide », paru en 2010 chez La Découverte. André Guichaoua, bonjour.
Oui, bonjour.
François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique, auteur de « L'homme de fer, conversation avec Paul Kagame », paru il y a un mois chez Nouveau Monde Éditions à Paris. François Soudan, bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Baptiste Placat, éditorialiste à RFI et fondateur du journal « L'autre Afrique ». Jean-Baptiste Placat, bonjour.
Bonjour.
Première question toute simple, à l'heure qu'il est... Je me tourne vers vous, François Soudan, qui venait donc de publier ce livre entretien avec l'homme fort du Rwanda, Paul Kagame. À l'heure qu'il est, le Rwanda est-il une démocratie ?
Ouais, c'est une bonne question parce que, justement, c'est un des thèmes des entretiens que j'ai eu avec Kagame, c'est la définition de la démocratie. Alors, il y a une définition qui est évidemment couramment admise, et je crois que les aspirations des Rwandais ne sont pas en termes de liberté, de représentativité, de prospérité différentes de celles des autres peuples, et sur un certain nombre de critères que l'on connaît, notamment la liberté de la presse ou la liberté d'association, il y a encore énormément de chemin à faire. Kagame, lui, a une vision, je dirais, relativement différente de cette notion. Il estime que la démocratie, elle ne se décrète pas, elle se construit, elle se prépare, que tout est un problème de contexte, et qu'il faut rentrer, finalement, dans la thématique de la démocratie, tout le reste, c'est-à-dire les questions de droit et d'égalité entre les sexes, l'autonomisation des citoyens, les droits de la femme, les investissements, la santé, l'enseignement, etc. Donc il y a une sorte de malentendu de son point de vue. Et il s'insurge, il dit, écoutez, moi, on décrit parfois la société rwandaise comme une société moutonnière conduite à la baguette par un pouvoir qui serait sorti de George Orwell. Il dit que c'est stupide, il dit « je ne suis pas un médecin qui délivre au peuple des ordonnances obligatoires sur ce qu'il doit faire, qui le prend à la gorge, nous ne sommes pas une fourmilière de cervelés, nous savons très bien ce que nous voulons. C'est vrai que j'ai eu des élections à 90, 93, 95%, mais ça n'est pas une raison, il faut analyser pourquoi les gens vont voter, et ça n'est pas une raison pour dire qu'il n'y a pas chez moi de démocratie. C'est une, disons, une notion de la démocratie, je dirais presque de ce qui se passe au Rwanda, qui est très différente de ce que l'on peut imaginer. Il estime, lui, que c'est pas le Rwanda qui a un problème avec le monde extérieur, c'est le monde extérieur qui a un problème avec le Rwanda.
André Guichaoua, le Rwanda est-il une démocratie ?
Tout ce qui relève du fonctionnement des institutions est mis en scène autour de critères démocratiques, les élections, les partis, des organisations dites de la société civile. Pour autant, la formulation reste délicate dans la mesure où on est passé d'une sorte de légitimité combattante et militante au moment de l'installation du régime.
En 94.
À une légitimité qui désormais sort des urnes. Bon, alors le débat tourne sur la manière dont les votes sont organisés et quelle est la transparence, l'inclusivité, la représentativité de ces votes. Alors, dans la pratique, on a quand même l'impression que on est sur un cadre homogène et c'est
il n'y a pas de pluralisme
et c'est un euphémisme. Bon, il n'y a pas véritablement de possibilité, bon, ni de réunion, ni d'association, ni etc. Le deuxième élément est que bon, c'est à mon sens la question fondamentale, c'est que pour que on puisse qualifier les élections de démocratiques, il faut qu'il y ait des démocrates et les démocrates on ne les voit pas. Alors après, le débat, on pourra le reprendre sur le statut des droits politiques par rapport aux autres droits dont le régime se revendique, et pour certains à juste titre, mais voilà.
Jean-Baptiste Placat, je vous pose la même question.
Je pense que Paul Kagame a tendance à construire sa propre définition de la démocratie et il sous-entend que, compte tenu de l'histoire récente de son peuple, il faut le laisser évoluer comme il veut vers ce qui est communément considéré comme une démocratie. En l'occurrence, il se réserve le droit de choisir le moment où son pays sera véritablement démocratique.
Alors, il y a un cas emblématique hein, de la question rwandaise, c'est le cas de Victoire Ingabire, cette opposante, présidente du parti FDU, Force démocratique unifiée, qui a longtemps vécu en Europe et qui est rentrée en 2010 au pays, notamment en vue de la présidentielle de 2010, et qui finalement a été arrêtée. Elle est en prison depuis exactement 5 ans, depuis le 14 octobre 2010, et elle est notamment accusée, condamnée maintenant, pour idéologie génocidaire. François Soudan, est-ce que le régime de Paul Kagame n'a pas tendance à accuser tous ses opposants d'idéologie génocidaire ?
Bah, en ce qui concerne Victoire Ingabire, il y a un certain nombre de choses qui lui ont été reprochées, avoir posé un certain nombre d'actes précis à son retour lorsqu'elle est revenue au Rwanda. Dans le dossier de l'accusation, il y a aussi des liens avec les FDLR qui, je crois, sont avérés. Le problème, c'est que au cours de ce procès, elle n'a pas eu véritablement l'occasion, que ce procès n'a pas été réellement public, c'est-à-dire qu'on n'a pas su réellement ce qui s'est dit, on n'a pas su réellement la manière dont elle s'est défendue et quels étaient ses propres arguments, et que incontestablement, dans le jugement, la justice rwandaise a eu la main extrêmement lourde. Hein. C'est vrai que autant les résultats peuvent être impressionnants au Rwanda en termes économiques et sociaux, autant les méthodes pour y parvenir sont incontestablement directives. Il y a un petit peu l'œil de Kagame partout, ça veille sur chaque arpent de ce pays, calme propre et ordonné, et tous ceux qui sortent effectivement des chemins qui ont été tracés peuvent avoir d'assez sérieux problèmes. Il y a la main très lourde pour l'opposition, on l'a vu notamment avec l'opposition en exil, mais sans doute on en reparlera.
Oui, absolument. André Guichaoua, le cas Victoire Ingabire.
Le cas de Victoire Ingabire est bien représentatif. Hein. Il s'était présenté aussi lors des élections précédentes, présidentielles précédentes, avec un autre candidat. Mais moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est ce qui s'est passé avant et après, au travers de l'envoi de très nombreux mandats de demandes d'extradition vis-à-vis de ses proches, que ce soit sa famille, que ce soit son comité de soutien, que ce soit les personnalités qui l'entouraient, et des mandats qui sont en instruction, toujours, notamment aux Pays-Bas, et qui sont toujours en mesure de tomber dès que les Pays-Bas accéderont à ces demandes. Bon, c'est un mode de combat politique qui pose véritablement problème quant à la possibilité même de se présenter.
Et Victoire Ingabire, donc, rappelons-le, est toujours en prison. Hein. Elle a été condamnée à 8 ans de prison pour activité alléguée de complicité avec les rebelles des FDLR. Qu'en pensez-vous, Jean-Baptiste Plaquin ?
Le problème est que Victoire Ingabire est tombée sous le coup de ce qui frappe tous ceux qui s'opposent à Paul Kagame, en l'occurrence l'accusation de proximité avec l'idéologie génocidaire est imparable, et ça s'applique exactement à tous ceux qui s'opposent, en l'occurrence. Donc, on revient à la démocratie et à une justice crédible. Elle ne l'est pas, parce que tous ceux qui osent, ça a commencé d'ailleurs par Pasteur Bizimungu, le premier président.
Après 94.
Voilà, le jour où on l'a accusé de proximité avec les génocidaires, il n'avait plus. C'est-à-dire, c'est la condamnation, en l'occurrence.
Vous écoutez RFI.
Géopolitique. François Soudan, on a senti qu'il y avait peut-être une petite ouverture au début des années 2000 avec la présidentielle de 2003 à laquelle a pu se présenter Faustin Twagiramungu, qui est rentré d'Europe exprès pour cette campagne électorale. Et on a senti au contraire un durcissement à partir des années qui ont suivi. La preuve, Twagiramungu n'a pas pu revenir pour 2010.
Oui, il y a eu, un durcissement des deux côtés. Il y a eu un durcissement du pouvoir vis-à-vis de tout ce qui pouvait être contestation. Il faut dire qu'en ce qui concerne Bizimungu, en ce qui concerne Victoire Ingabire, ce sont deux cas différents. Je crois que les liens d'Ingabire avec les FDLR ont été complètement avérés et je dirais même revendiqués par elle. Bizimungu, c'est différent. Bizimungu s'était exprimé, c'était d'ailleurs dans une interview à Jeune Afrique, en disant que les Hutus, en gros, n'avaient pas leur place et qu'ils étaient persécutés, ce qui n'était absolument intolérable, ce type de propos aux yeux du pouvoir. Maintenant, il y a un durcissement réciproque. C'est vrai qu'il y a eu un durcissement de l'opposition, mais cette opposition, elle est multiple. Et je crois que celle qui est la plus, qui peut être la plus problématique pour le pouvoir n'est pas celle qui vit en exil, par exemple en Belgique ou en France. La plus problématique est incontestablement celle qui vient peut-être de sa propre matrice, du FPR. On a vu le cas Karegeya, on a vu le cas Nyamwasa, donc d'anciens militaires qui ont fait participer à la lutte de libération dans les années 90 et qui sont passés en dissidence pour des raisons qui sont souvent des raisons de trajectoire personnelle, qui ne sont pas des raisons idéologiques ou je dirais démocratiques, qui sont souvent des gens qui ont eu des problèmes précis dans leur ascension, qui ont rencontré un certain nombre de problèmes ou de contrôles auxquels ils n'ont pas pu se soumettre. Mais celle-là est beaucoup plus dangereuse pour le pouvoir, parce qu'elle vient de l'intérieur.
Mais je m'arrête une seconde sur Faustin Twagiramungu. On peut difficilement l'accuser d'être génocidaire, puisque lui-même a failli être tué par les génocidaires, comme chacun sait, en avril 1994 à Kigali. Il a dû se cacher dans un faux plafond. Il est devenu Premier ministre du régime dirigé en sous-main par Paul Kagame dès août 1994. Mais maintenant, il ne peut plus rentrer au Rwanda sous peine de risquer d'être arrêté. Est-ce qu'il n'y a pas un durcissement du régime à l'égard d'un homme aussi emblématique que Twagiramungu ?
C'est une évidence, parce que Twagiramungu, ce qu'on lui reproche, et on ne lui reproche pas d'avoir été génocidaire. S'il rentre au Rwanda, je ne pense pas qu'il va passer devant les tribunaux Kachacha, qui d'ailleurs n'existent plus, ou en voie d'extinction. Le problème, c'est des alliances qu'il a passées, lui, en tant qu'opposant, avec un certain nombre de groupes qui, eux, sont des groupes, je dirais, post-génocidaires. Donc ça, c'est vraiment une confrontation politique très claire. Officiellement, on vous dira à Kigali qu'il peut rentrer, qu'il n'a aucun problème, mais effectivement, lui choisit de ne pas rentrer parce qu'il estime qu'il pourrait en avoir et c'est tout à fait possible.
André Guichaoua ?
Oui, il n'existe plus à l'heure actuelle au sein du système d'opposants déclarés. Et ça, c'est certainement la vraie question, parce qu'ils existent, de facto. La question, elle est vraiment de savoir où ils se trouvent et comment ils peuvent s'exprimer. Bon, face à cela, autour de Paul Kagame, s'est mis en place un système de rotation généralisée, qui concerne d'abord ses proches, et qui concerne plus généralement tous les cadres politiques et les élites potentielles, qui sont sans cesse remis à leur place, renvoyés en arrière, avant de pouvoir recommencer leur ascension, en fonction de critères qui sont des critères d'obéissance et de soumission.
Twagiramungu, est-ce un cas emblématique à vos yeux, Jean-Baptiste Plaquin ?
Encore une fois, en quoi est-ce emblématique ? Tous les cas sont emblématiques, en l'occurrence dans ce pays. Je pense que le pouvoir Kagame ne supporte pas la contestation, encore moins ce qu'il considère comme une trahison, c'est-à-dire que des proches s'avisent de s'opposer à lui, et avec la suspicion permanente de les voir aller révéler des faits qui sont, disons, les secrets de famille du régime Kagame.
Alors, vous parlez de la trahison, justement, l'un des très proches de Paul Kagame, passé à l'opposition, c'est Patrick Karegeya, a été assassiné le 31 décembre 2013 dans sa chambre d'hôtel en Afrique du Sud, et tous les regards se sont alors tournés vers le Rwanda, les regards de l'Afrique du Sud d'abord, puisqu'il y a eu à ce moment-là une grave crise diplomatique entre Pretoria et Kigali. François Soudan, vous en parliez tout à l'heure de Patrick Karegeya. Pourquoi cet assassinat ? Est-ce que vous pensez qu'à Kigali, il était considéré vraiment comme un danger pour le régime ?
Oui, deux choses. Simplement, je voudrais revenir une petite seconde sur ce que disait André Guichaoua tout à l'heure sur la rotation permanente autour de Kagame. Ça n'est pas le cas de tout le monde. Il y a un noyau de personnes qui ne bougent pas autour de lui. Je pense par exemple à François de Garambe, qui est secrétaire général du FPR et qui est maintenant depuis une dizaine d'années, qui lui ne bouge pas.
André Guichaoua ?
Oui, bon, mais il est le cas qui illustre la différence. Mais le critère qui prévaut, il est simple. Il est la norme de l'obéissance et de la soumission. Il l'incarne, bon, et à ce titre, il joue un rôle majeur dans le dispositif. Mais il sait qu'il peut être traité du jour au lendemain comme tous ceux qui seraient considérés comme des traîtres potentiels ou des déviants.
François Soudan.
Oui, on peut appeler ça aussi, ce que dit Kagame, c'est l'obsession du contrôle du résultat. Alors, c'est quelque chose qui peut avoir un côté extrêmement positif au Rwanda, c'est-à-dire qu'on contrôle systématiquement le résultat de tous les ministres. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a très très peu de corruption par rapport à ce qui se passe ailleurs sur le continent, et c'est incontestablement à mettre au crédit du régime Kagame, mais il est évident que ce contrôle du résultat est aussi le contrôle d'un résultat politique ou idéologique, et ça peut effectivement donner les résultats dont parlait André Guichawa. Alors maintenant, pour revenir, vous me parliez de Patrick Karegeya.
Et de Kayumba Nyamwasa aussi, autre opposant qui lui a été visé par deux tentatives d'assassinat, toujours en Afrique du Sud.
Oui, alors encore une fois, je pense qu'il faut, d'abord regarder c'est quoi être un opposant. Ce ne sont pas des opposants en termes politiques ou idéologiques. Encore une fois, les raisons de la rupture de Karegeya et de Nyamwasa avec Kagame n'ont rien à voir avec cela. Ce sont incontestablement des raisons d'ambition contrariées, ou peut-être des gens qui n'ont pas fait assez acte de soumission à un moment ou à un autre. Mais ça n'a rien de politique.
Simplement.
Ça a pris ensuite les couleurs d'une lutte pour la démocratie, mais ça n'était absolument pas au départ.
Simplement, François Soudan, est-ce que tout cela ne prouve pas que le régime est peut-être un éléphant au pied d'argile et qu'il a peur d'hommes qui peuvent, depuis l'extérieur, provoquer un changement?
Ah, c'est l'une des fragilités possibles. Je dirais non pas de ce régime, mais de Kagame lui-même. Parce que le problème, ce n'est pas tant son régime, c'est lui qui peut être effectivement menacé, je dirais presque dans sa vie, par ce type d'opposition. Il ne faut quand même pas oublier que Karegeya Nyamwasa, dans une certaine mesure, ont quand même, dans une certaine mesure, avalisé, je crois que Karegeya avait même eu des déclarations publiques en ce sens, les campagnes de jets de grenades dans des lieux publics au Rwanda qui ont fait, c'était il y a 2 ou 3 ans, des morts et des dizaines de blessés. Maintenant, à partir du moment où on rentre ainsi en opposition frontale à Kagame, il est évident que, comme il le dit, on a la mort qu'on mérite, il n'a aucun état d'âme à ce niveau-là.
Jean-Baptiste Placa, c'est un régime fort ou un régime fragile ?
La fragilité se niche dans justement ce qui peut apparaître comme sa force, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être assuré de la fidélité à vie de chacun de ceux qui l'entourent. Donc à tout moment, il peut y avoir une défection qui va... C'est comme si ce régime avait des choses très graves à cacher et que on surveille notamment les plus proches pour s'assurer que jamais ils ne vont à l'extérieur exposer ces événements qui ont pu ou qui peuvent être considérés comme néfastes.
Pour conclure cette première partie, André Guichawa, reste-t-il encore à l'intérieur ou à l'extérieur des opposants qui font peur à Paul Kagame ?
Oui, Patrick Karegeya l'incarnait.
Oui, mais il est mort.
Parce qu'il était sans ambition. Il savait qu'il ne pouvait pas postuler à quoi que ce soit, mais il pouvait à ce titre s'exprimer. Bon, maintenant, il est très probable qu'il en existe encore au sein du dispositif politico-militaire.
Mais qui se cachent ?
Qui se cachent ?
Qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur ?
Ils ne sont pas à l'extérieur, ils sont à l'intérieur. Alors c'est ça effectivement la force et la fragilité, et c'est aussi pour ça que beaucoup disent au niveau des militaires que le président Kagame se comporte toujours comme un chef des services de renseignement. Et effectivement, il est obligé de le faire, puisque c'est là que ça se situe. Et la vraie question qui se pose après, c'est, au cas où il serait remplacé ou qu'une déstabilisation prévaudrait, que restera-t-il de cette démocratie des urnes et de ces processus électoraux, des formations politiques, etc., qui ont été mises en scène régulièrement lors des consécrations successives qui ont prévalu sur le plan électoral.
Nous retrouvons nos invités dans quelques instants, François Soudan, André Guichawa, Jean-Baptiste Placa, après les dernières informations.
Géopolitique.
Christophe Boisbouvier.
Regard sur la situation au Rwanda, le Rwanda de 2015. Nous retrouvons nos invités, André Guichawa, universitaire à Paris 1, auteur de Rwanda de la guerre au génocide, paru en 2010 chez La Découverte. François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique, auteur de L'homme de fer, conversation avec Paul Kagame, paru il y a un mois chez Nouveau Monde Édition à Paris. Et Jean-Baptiste Placa, éditorialiste à RFI et fondateur du journal L'Autre Afrique. Nous allons évoquer dans la seconde partie de cette émission le Rwanda et la communauté internationale, le regard que celle-ci porte sur le régime de Paul Kagame. Mais avant cela, je crois, André Guichawa, que vous aviez quelque chose à dire sur la corruption au Rwanda.
Oui, c'est un débat qui dure depuis longtemps. La question, elle est de savoir ce qu'on appelle corruption. On peut aussi appeler ça, en termes économiques, les coûts de transaction. Je voudrais simplement donner un exemple. Les investissements directs étrangers. Bon, je vais citer un texte de la Commission de développement du Rwanda. Les investissements dont jouit le Rwanda étaient passés de 257 millions de dollars en 2013 à 521 en 2014. Avec cette nouvelle loi, le pays souhaite obtenir 1,12 milliard de dollars d'investissements directs étrangers avant la fin de l'année. Bon, retenez bien la formule. Donc, les investissements directs étrangers ont, d'après les commissions nationales, été multipliés par 2 en un an, puis par 4 en 2 ans. Si on va voir dans les documents de la CNUSED, on trouve des chiffres très différents, 255 millions en 2012, 258 puis 268. C'est-à-dire qu'on est à 5% sur 2 ans. Et on est quand même très loin des 521 millions et surtout du milliard 100 qui est annoncé pour cette année. Là-dessus, il y a des réponses et on les trouve dans d'autres travaux. J'en cite un, le coût du parrainage assuré par les dignitaires du régime et la mainmise du FPR et de ses entreprises sur les secteurs productifs décourage rapidement les investisseurs et entrepreneurs potentiels. Il n'est donc surprenant qu'à première vue qu'un pays si bien noté dans le ranking of doing business attire finalement si peu d'investissements étrangers directs.
François Soudan, qu'est-ce que vous pensez de cette analyse?
Je vois pas très bien à quoi André Guichawa fait référence. Personne n'a dit qu'il n'y avait pas de corruption au Rwanda ou qu'il n'y a plus de corruption au Rwanda. Tout est relatif par rapport à ce qui se passe ailleurs dans tous les pays voisins, et je crois dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, peut-être faut-il exclure Maurice par exemple, ou peut-être même le Botswana. Le Rwanda est un pays où la corruption à tous les niveaux, croyez-moi, je le fréquente ce pays de manière très régulière, à tous les niveaux, c'est-à-dire depuis le plus petit policier dans la rue qui vous arrête parce que vous n'avez pas votre casque sur un vélomoteur, jusqu'au plus haut niveau ministériel, par exemple, où la corruption est, je dis pas totalement inexistante, mais très largement inexistante, et en tout cas, très souvent, spectaculairement puni. Donc il n'y a pas de culture de l'impunité au Rwanda. Je pense que c'est une chose qui est quand même très importante. Et depuis le début de cette émission, on ne parle qu'effectivement que du côté vide de la bouteille. Il faudrait quand même que l'on parle du côté plein. C'est quand même extrêmement important pour tout le monde, y compris pour tous les Africains qui nous écoutent. Ce sont les chiffres de ce pays quand même, une espérance de vie qui passe de 45 à 65 ans, un taux de mortalité infantile qui a chuté de 70%, un revenu par tête qui a augmenté de 60%, vous avez 64% des élus sont des élus femmes, enfin, il y a énormément de chiffres de ce type, on peut dire bon ça fait partie de la propagande du régime, non, ce sont des réalités, alors on peut très bien dire que ça n'a aucune importance, mais je pense que c'est l'essentiel et c'est là effectivement qu'il y a un malentendu et un débat avec Kagame et avec son régime, il estime qu'on ne reconnaît pas assez ce premier point-là.
André Guichawa ?
Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, hein, et moi c'est aussi pour faire ce lien que j'intervenais sur ce point, en faisant aussi le lien avec la gestion politique. Et je reviens sur la gouvernance économique, parce que pour moi c'est certainement le point essentiel sur lequel à l'avenir on jugera le régime. Bon, on est sur une relation extrêmement étroite entre FPR, État, secteur privé. Cette position hégémonique se retrouve dans tous les secteurs de l'activité.
Ça, c'est toujours le document que vous lisez.
Non, ça, c'est des analyses que l'on peut faire à partir de la lecture des documents dont on dispose. Là, par exemple, je viens de lire le Rwanda Economic Update de juin de la Banque mondiale. Et il souligne un élément qui est très intéressant, à savoir que le retour en termes de fiscalité ne se retrouve pas. Et là, pour tous ceux qui connaissent quand même un peu la région, et vous avez parlé de l'île Maurice et à juste titre, on s'aperçoit que pour une très large part, les entreprises qui sont soit privées directement contrôlées par le FPR, soit des entreprises para-étatiques, ne payent que des impôts infimes. Et que la fuite des bénéfices est très grande. Et ça, c'est certainement la question de fond, parce que Le modèle économique se fondait sur une success story, hein, type Asie du Sud-Est, hein, où les autorités politiques engrangent, mais redistribuent à l'échelon local et donc remontent les besoins primaires des populations et les couvrent, ce qui n'est pas faux. Hein. Par contre, si maintenant on mesure ce qu'il en est des fuites, là on peut se poser des questions sur le fait que eh bien, les autorités nourrissent aussi le développement des autocrates.
François Soudan.
Je ne sais pas. Ce que sont ces fuites, où vont-elles, quelle est leur destination, où sont-elles investies, je n'en sais rien. En ce qui concerne le FPR, c'est évident que ce parti État a joué un rôle économique voulu et important dès le départ dans le cadre de la reconstruction. Ça, c'est parfaitement revendiqué. Il a investi le secteur économique parce qu'il fallait bien que quelqu'un serve de moteur à cette reconstruction après 94. Ça dure encore aujourd'hui et je pense que incontestablement, c'est un problème. Maintenant qu'il y ait effectivement de la corruption encore, qu'il y ait des fuites ou des bénéfices, je sais simplement que au niveau de la direction de l'État en ce qui concerne Paul Kagame en particulier, c'est quelqu'un qui n'a à ma connaissance, aucun bien à l'étranger. Je suppose que l'opposition les a suffisamment traqués et leur a dit. Il ne revendique de compte en banque à l'étranger que pour alimenter ses enfants qui font des études aux États-Unis. D'ailleurs, il en a deux là-bas. Et il n'a pas de bien hors du Rwanda. Maintenant qu'il y ait certainement, je dirais, un peu de corruption à l'asiatique à partir du moment où elle est réinvestie sur place par l'élite Tutsi et l'élite économique Tutsi, ça ne pose pas de problème au pouvoir. Et encore une fois, l'important, ce sont les chiffres de base que je citais tout à l'heure. Qu'est-ce qui a été fait en termes de développement économique et social pour la population rwandaise? Et à ce niveau-là, c'est incontestablement impressionnant.
2017, ce sera la prochaine élection présidentielle. Alors qu'il est, la Constitution interdit au président sortant Paul Kagame de se représenter, mais le Parlement est en train d'examiner une loi qui va changer les règles du jeu et qui va permettre donc à Paul Kagame de se représenter. En juin dernier, l'ambassadeur d'Allemagne à Kigali a donné une interview au journal pro-gouvernemental New Times à Kigali et il a eu cette phrase. Le Rwanda a connu d'énormes succès ces 21 dernières années. La vie de tout le monde s'améliore. Politiquement, tout dépend de ce que voudra la majorité du peuple rwandais. Y a-t-il, Jean-Baptiste Placa, une mansuétude de la communauté internationale à l'égard du cas Paul Kagame?
D'abord, je pense qu'il faut souligner l'impression que rapporte du Rwanda la plupart des Africains subsahariens qui vont dans ce pays et qui sont véritablement impressionnés par la tenue du pays, ses performances économiques, mais aussi la gestion. Et je pense que pour refaire le lien avec la question que vous posiez au départ, ici, on est face à ce qu'on pourrait considérer comme une dictature utile. Il y a eu des dictatures comme celle de Mobutu qui n'ont servi à rien, c'est-à-dire que quand ces dictateurs étaient au pouvoir dans leur pays, ils n'ont pas travaillé à au moins développer le pays, ce qui aurait été en quelque sorte la circonstance atténuante à leur dictature. Et je pense que le Rwanda se présente un peu comme une dictature à qui l'on pardonne beaucoup parce qu'il a des résultats sur le plan économique et dans la gestion du pays. Vraiment, les Africains sont impressionnés par ce qu'est le Rwanda aujourd'hui. C'est une réalité.
Alors il y a cette phrase d'Herman Cohen, l'ancien monsieur Afrique de Bill Clinton, disant « Nous, les Américains, nous sommes plus cléments avec les dictatures qui font du développement, comme au Rwanda, qu'avec celles qui n'en font pas, comme le Congo-Kinshasa du temps de Mobutu, notamment, parlait-il. » Qu'est-ce que vous en pensez, André Guichawa?
C'est une position constante, à savoir que les droits économiques priment sur les droits politiques et qu'à partir du moment où un modèle de croissance est considéré comme performant, quelles qu'en soient les incidences, il est considéré comme légitime. En tout cas, il ne fait pas l'objet de l'acrimonie internationale.
Alors en même temps, c'était mercredi dernier, c'était à Kinshasa, elle était de passage dans cette capitale du Congo. Sarah Sewall, elle est sous-secrétaire d'État américaine à la société civile à la démocratie et aux droits de l'homme, a eu cette phrase: le Rwanda a fait des progrès très importants au niveau économique, alphabétisation et baisse du taux de mortalité infantile, mais ces progrès économiques n'ont pas été suivis sur le plan politique. Il y a des tentatives claires de bâillonner certaines personnes qui, pour certaines d'entre elles, ont carrément disparu. Les autorités doivent respecter la démocratie et les droits de l'homme. Le président Kagame s'était engagé à respecter la Constitution de mandat maximum. Il devrait respecter sa parole. Il devrait « keep his word », disait Madame Siwal mercredi dernier. François Soudan, est-ce que les Américains sont en train de changer d'avis sur le Rwanda ?
J'ai quand même quelques doutes sur l'efficacité et l'utilisation qui peut être faite des leçons que les Américains donnent un petit peu partout en ce moment sur le continent, à partir de notamment le fameux discours d'Addis Abeba de Barack Obama au peuple d'Afrique, au singulier d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, qui sont assez répétitives. C'est vrai qu'en ce qui concerne les États-Unis, la relation avec le Rwanda était nettement meilleure quand Hillary Clinton était secrétaire d'État. Mais il y a effectivement une bonne relation avec cette famille Clinton, avec toute une partie d'administration démocrate qui est beaucoup moins avec une autre elle, notamment avec Susan Rice, c'était difficile, et actuellement c'est avec John Kerry, c'est beaucoup plus compliqué. De là à dire que les États-Unis lâchent le Rwanda ou Kagame, non. Ils ont eu cette position constante qu'ils répètent là comme ailleurs sur le problème du respect des constitutions. C'est évident. Kagame, lui, bon, vous savez qu'il s'est pas encore prononcé sur sa candidature en 2017, puisqu'on en parlait au début.
Oui, mais enfin, ça ne fait de doute pour personne.
Ça ne fait de doute pour personne. En tout cas, ça n'en fait absolument pas pour moi, bien qu'il l'ait pas dit, et bien qu'il continue à tenir un discours en disant que ce sont les personnes qui l'ont rédigé et mise en œuvre qui sont les seules à avoir le droit de la changer, cette constitution. Ce n'est pas moi, ça me concerne pas. A priori, pour moi, il est hors de question de modifier la Constitution, mais si le peuple veut, il n'a qu'à le faire. Il a évolué sur ce sujet. Hein. Je me souviens que les premières conversations, il disait « je ne ferai pas comme les autres chefs d'État, je quitterai le pouvoir, mais je comprends que vous ne me croyez pas, attendez de voir ». Et puis j'ai senti effectivement peu évoluer. Hein.
Le pouvoir est-il une drogue ?
Vous savez, j'ai posé la question à Kagame, quelle est sa principale faiblesse. Il m'a dit justement, c'est le fait de ne pas savoir reconnaître mes propres faiblesses. Donc vous avez peut-être la réponse à cette question, oui.
Mm-hmm. André Guichaoua, est-ce que les États-Unis sont en train de changer leur regard sur le régime de Paul Kagame ?
Les États-Unis ont quand même habitué les pays africains à des paroles multiples selon ceux qui s'expriment, hein, entre les militaires, entre le département d'État, entre les différentes structures. Donc je pense que le discours est effectif, hein. Il n'empêche que dans la pratique, ils s'aligneront vraisemblablement, comme beaucoup d'autres, sur les volontés des pays, d'autant plus que en disant que l'Union africaine doit se prononcer en priorité, il renvoie la balle de facto à d'autres.
Alors, il y a le cas Rwanda, mais il y a aussi le cas Burundi, le cas Congo-Kinshasa, le cas Congo-Brazzaville. Ce sont autant de pays qui sont amenés à modifier les règles du jeu pour que le président en place puisse briguer un troisième mandat. Jean-Baptiste Placa, est-ce qu'il y a une exception rwandaise ?
Non, encore une fois, c'est pas qu'il y a une exception rwandaise, mais c'est que au moins au Rwanda, on a le sentiment que la dictature, c'est terrible à dire ça, mais que la dictature sert à quelque chose. Et vous savez, le Rwanda d'aujourd'hui me fait penser au Ghana de Jerry Rawlings dans les années 80-90. C'était un régime fort, comme qui dirait, mais en réalité, il a essayé de construire les bases d'une économie saine, et quand cela est devenu irréversible, il a démocratisé. Alors, la prière et l'espoir qu'on peut nourrir par rapport au Rwanda, c'est que quand l'économie le développement économique deviendra irréversible, que Kagame se convertisse à la démocratie. Auquel cas, on lui jetterait les fleurs du type de ce qu'on jette à Rawlings aujourd'hui au Ghana.
Il y a donc ces remarques acerbes de Washington, et puis il y a ce grand silence de Paris. C'est là-dessus que nous allons conclure cette émission. Il nous reste quelques minutes. Les relations franco-rwandaises, elles sont toujours aussi mauvaises depuis 21 ans maintenant. Est-ce qu'il y a encore ce souvenir du génocide qui imprègne les relations franco-rwandaises et qui explique le silence de Paris sur la volonté de Paul Kagame de rester au pouvoir en 2017, François Soudan ?
Juste très rapidement, Christophe, sur ce que vient de dire Jean-Baptiste Placat, moi je ne suis pas d'accord avec le terme dictature, pour aller assez souvent au Rwanda, je ne pense pas que ce soit une dictature, c'est une autocratie, c'est pas une dictature, d'accord avec lui pour dire que la différence avec les autres, c'est qu'il a un bilan, ça nous a beaucoup surpris qu'il critique Nkurunziza, par exemple son voisin burundais, quand il voulait modifier sa constitution, mais lui il fait la même chose, et sa réponse a été de dire c'est une affaire de bilan, quand on a un bilan on peut continuer, bien, on peut en discuter très longtemps. Maintenant sur Paris, vous avez raison, les relations tournent complètement en rond, il y a une petite éclaircie sous Sarkozy, on est retombé exactement au même niveau avant, maintenant sous François Hollande. Vous savez qu'il y a un gros problème actuellement pour nommer l'ambassadeur à Kigali. Les Rwandais font traîner l'accréditation. Ça prouve qu'on est proche de l'encéphalogramme plat en ce qui concerne les relations franco-rwandaises. Elles sont d'ailleurs de moins en moins importantes, tant au niveau culturel qu'au niveau économique.
Oui, tout s'est durci avec l'interview que Paul Kagame a donnée à votre journal, François Soudan. C'était il y a un an et demi dans Jeune Afrique, quand le président rwandais a accusé la France d'être impliquée directement dans le génocide de 1994.
Directement, il dit, bon, écoutez, moi, il en parle dans le livre, d'ailleurs, de cette interview, il dit, moi, si on m'entend aujourd'hui encore commenter le rôle de la France, par exemple, c'est uniquement parce qu'on n'arrête pas de me poser la question, mais quand on me pose la question, mes réponses ne changeront pas, elles n'ont pas changé depuis 20 ans, je ne cesserai jamais de répondre, par l'entière vérité, peu importe à quel point elle dérange.
André Guichaoua, est-ce que Paul Kagame instrumentalise sa relation avec la France ?
Disons que elle prend en compte des rapports de force sur le continent. La diplomatie française s'est quand même recentrée sur d'autres régions, par nécessité, parce qu'elle est plombée dans une autre. Et sur ces bases-là, je dirais que les discours n'ont pas fondamentalement changé. La position française était de dire qu'on n'intervient pas sur le passé, on n'intervient pas sur les décisions judiciaires, et on refonde un discours et des rapports sur des relations nouvelles. Cela ne s'est pas fait, et bon, la crise de l'an dernier, des commémorations, a durablement marqué ce contexte.
Mais ce qui est intéressant, c'est que quand Paul Kagame est passé à Paris en mars dernier pour quelques heures à l'UNESCO, il n'a été reçu par aucun officiel français, en revanche, il a rencontré Nicolas Sarkozy.
Oui, mais ça relève du jeu diplomatique. Mais en même temps, il a rencontré récemment le ministre des Affaires étrangères français. Ils ont discuté, ils avaient envisagé des choses. Bon, et apparemment, tout ça ne fait pas bouger véritablement les lignes des uns et des autres.
Est-ce que Paris et Kigali se réconcilieront un jour, Jean-Baptiste Placat ?
Non, parce qu'on est...
À quelles conditions ?
Voilà, on est justement dans le cadre de ce qu'on appelle un contentieux historique. La France, quoi qu'elle dise, sera toujours accusée des mêmes choses par le Rwanda. Et d'ailleurs, cela fait que les Français hésitent à se mêler de la vie politique interne au Rwanda. Maintenant, la réconciliation, elle viendra le jour où, de part et d'autre, chacune des parties acceptera ses torts, si l'on ose dire.
Merci à nos invités. C'est la fin de Géopolitique. Merci à André Guichaoua, universitaire à Paris 1, auteur de « Rwanda de la guerre au génocide », paru en 2010 chez La Découverte. Merci à François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique, auteur de « L'homme de fer, conversation avec Paul Kagame », paru il y a un mois chez Nouveau Monde Éditions à Paris. Et merci à Jean-Baptiste Placat, éditorialiste à RFI et fondateur du journal L'Autre Afrique. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat. L'émission est signée Nathalie Laporte, Véronique Durand et Christophe Boisbouvier. Demain, c'est Éric Bataillon qui animera Géopolitique. L'émission sera consacrée à la Turquie. Au revoir et à bientôt.